Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Au fil de l'eau sous les ponts. Après vous avoir parlé des ponts d'Avignon, de Tancarville et de Bordeaux, je vais revenir très en arrière dans notre histoire. Nous allons faire connaissance avec le pont le plus antique, le pont du Gard. C'est le plus haut pont, évidemment, du monde romain. Et il a été classé au patrimoine de l'UNESCO en 1985. Le pont est la partie monumentale d'un aqueduc de plus de 52 km de long qui apportait l'eau de la fontaine d'Eure, située au pied d'Uzès, jusqu'à la ville romaine de Nemosus, qui est aujourd'hui Nîmes. Cet aqueduc est un chef-d'œuvre, témoignage de la maîtrise extraordinaire des constructeurs anciens. Le dénivelé entre les points de départ et d'arrivée n'est que de 12,60 m. À cause du relief, l'aqueduc serpente à travers des petites montagnes et vallées des Garrigues, d'Uzès et de Nîmes. La céramique du pont permet de dater la construction au 1er siècle. Le débit moyen a été estimé à 40 000 mètres cubes d'eau par jour. L'eau courante mettait une journée entière pour parvenir par gravité de son point de captage jusqu'à l'ouvrage de répartition qu'on peut toujours voir d'ailleurs dans la ville de Nîmes. La ville possédait un certain nombre de puits ainsi qu'une source proche, donc on pense que la construction de l'aqueduc ne relevait pas d'une nécessité vitale pour la ville, mais plutôt d'un ouvrage de prestige destiné à l'alimentation des thermes, des bains, des jardins, des fontaines de la ville. Il symbolise le génie scientifique romain. Le défi était d'autant plus grand que le pont devait résister aux crues redoutables du Gardon. Dès le IVe siècle, on l'a mal entretenu. Des dépôts calcaires occupaient jusqu'aux trois quarts de la conduite, si bien qu'on estime qu'il a cessé de fonctionner au VIe siècle, à l'époque où, à la suite de la bataille de Vouillé, je vous rappelle qu'elle a eu lieu en 507, les Francs ont pris le contrôle de la région d'Uzès, tandis que les Visigoths se maintenaient à Nîmes. Au Moyen Âge, les piles du deuxième étage ont été échancrées de façon que l'on puisse utiliser le pont comme pont routier. Au XVIe siècle, on s'avisa de l'architecture exceptionnelle du pont. Oui, parce qu'au XVIe siècle, vous savez, on en revient à l'admiration de l'Antiquité. Et les restaurations commencèrent de façon à conserver son intégrité. La Renaissance, donc, s'intéresse à ce pont. On peut bien le dire, puisque Charles IX est passé devant le pont en décembre 1564 lorsqu'il a fait son tour de France royale avec sa mère Catherine de Médicis. Dès 1646, l'évêque de Nîmes alerte les États du Languedoc sur le danger de ruine. Alors le 10 janvier 1660, Louis XIV et la cour, qui se trouve à ce moment-là dans le Midi à l'occasion de la paix des Pyrénées, il vient voir le pont du Gard. Et en 1696, Nicolas de Lamoignon de Baville fit faire un devis pour des réparations. Les travaux ont été pris en charge par les États du Languedoc. Ils ont duré jusqu'en 1704. En 1743, jusqu'à 1747, l'ingénieur Pitot a accolé un solide pont routier. D'autres réparations ont eu lieu au XIXe siècle, sur l'ordre de Napoléon III. En 1988 et en 2002, le Gardon a connu des crues très violentes. L'eau est montée jusqu'aux trois quarts des arches du niveau inférieur. À partir de l'an 2000, alors, on a décidé de rendre le pont accessible uniquement aux piétons. Un musée a été créé, une attention particulière a été portée au paysage qui avait été bien abîmé par les touristes. C'est l'un des monuments français les plus visités. Les sentiers de grande randonnée GR6 et GR63 passent par le pont. Et la Poste a émis, elle aussi, plusieurs fois, un timbre le représentant. Et bien maintenant, changeons d'époque. Je vais vous parler du viaduc de Millau, dans l'Aveyron. C'est un pont à haubans, c'est-à-dire que le tablier est suspendu par des câbles soutenus par des pylônes. Il est le pont routier le plus haut du monde. Il franchit la vallée du Tarn. Il assure la jonction entre le Causse Rouge et le Causse de l'Arzac en franchissant une brèche, alors là, écoutez bien ça, de 2460 mètres de longueur et 343 mètres de profondeur. Il permet de relier Clermont-Ferrand à Béziers. Avant le viaduc, le franchissement se faisait par un pont situé au fond de la vallée, dans la ville de Millau. C'était alors un gros point noir routier avec des kilomètres d'embouteillage. La CETE, vous dites ce que c'est Centre d'études des techniques de l'équipement. Donc la CETE Méditerranée, donc, qui est un service de l'État, a commencé à ce moment-là d'étudier la possibilité de faire un viaduc. Tout de suite, on a vu les difficultés techniques. Les dimensions de la brèche à franchir, des vents extrêmement violents qui peuvent aller jusqu'à 200 km à l'heure, et puis même de petits séismes. Donc les études ont commencé en 1988-1989. Et on arrive à 4 options de tracé. Mais en observant bien ces tracés, finalement, aucune des options n'est retenue. Alors on recommence les études, et finalement on tombe sur 2 possibilités. Une famille haute ou une famille basse. Eh bien, on choisit la haute, c'est-à-dire un viaduc de 2500 mètres à plus de 200 mètres au-dessus du Tarn. Alors, bien sûr, tout de suite, il y a eu des opposants, par exemple WWF, mais aussi France Nature Environnement. Il y a même un homme politique qui s'est opposé à sa création, le président de la région d'Auvergne, vous avez deviné, Valéry Giscard d'Estaing. Finalement, le projet est déclaré d'utilité publique après avis du Conseil d'État par décret du 10 janvier 1995, signé par le Premier ministre d'alors, Édouard Balladur, et le ministre de l'Environnement, Michel Barnier. En juillet 1993, 17 bureaux d'études et 38 architectes se portent candidats pour la réalisation des premières mises. Finalement, on sélectionne 8 bureaux d'études pour les études techniques et 7 architectes pour les études architecturales. Alors, il y a bien sûr des concours, ça, et en 96, on retient les bureaux Sogeberg, Europe Études Gecli, CERF et le cabinet d'architectes britannique Foster Partner. Un concours est organisé, c'est le bureau d'études liégeois Griech, je ne sais pas si on le prononce comme ça ou Griech, qui est retenu. Ah oui, mais il faut quand même payer. Alors, comment payer un tel ouvrage? L'État hésitait à sortir, je vous parle en ancien franc, 2 milliards, ce qui correspond à 320 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va recourir carrément au privé. L'enquête publique est lancée, la commission d'enquête rend un avis favorable le 28 février 1999. Décret signé le 23 novembre par Jean-Claude Guessot, était à l'époque ministre des Transports, et Dominique Voynet, d'Europe Écologie des Verts. C'est la compagnie Eiffage, on voit encore actuellement ce nom, hein, EI2FAGE, qui est choisie pour l'exécution. Lionel Jospin signe le décret définitif le 8 octobre 2001. L'ouvrage est la propriété de l'État, mais les dépenses pour la réalisation sont à la charge de la concession qui, bien évidemment, garde les revenus du péage. La concession d'ouvrage prendra fin le 31 décembre 2079. La première pierre est posée le 14 décembre 2001 et le viaduc est ouvert à la circulation le 16 décembre 2004. 3 ans de travaux, un record de vitesse. L'ouvrage avait été inauguré par le président de la République, Jacques Chirac. Alors je vous passe toutes les explications concernant la construction parce que c'est très compliqué et je n'ai pas toujours bien compris. Alors une petite quand même description. Donc le tablier de 32 mètres accueille une autoroute de 2 fois 2 voies et 2 voies de secours. Il est maintenu par 7 piles, prolongées chacune par un pylône de 87 mètres, auxquels sont arrimées 11 paires de haubans. Le pont a un rayon de courbure de 20 km, ce qui permet aux véhicules d'avoir un trafic, une trajectoire plus précise que si le pont était en ligne droite. Des structures de béton assurent l'appui du tablier à la terre ferme, sur le cause du Larzac d'un côté et sur le cause rouge de l'autre. Les installations électriques du viaduc sont très importantes. Il y a 30 km de câbles, 20 km de fibres optiques, 357 prises téléphoniques pour permettre aux équipes d'entretien de communiquer. À la moindre anomalie, une alarme se déclenche dans la salle de supervision et l'intervention est immédiate. L'ouvrage connaît un grand succès. Il permet le développement du commerce non seulement à Millau, mais dans tout l'Aveyron et même dans le Cantal, la Lozère et l'Hérault. Il a une influence sur la fréquentation des sites qui ne sont pas très loin, par exemple des caves de Roquefort ou encore le site de Micropolis. Le viaduc a même reçu des récompenses. Il a une notoriété internationale et il a même donné des idées à la Chine et à la Californie. Et lui aussi, il a ses timbres. Eh bien, je crois que si l'on admire le génie romain pour le pont du Gard, on peut le faire aussi pour la prouesse technique que représente ce viaduc. Au revoir à tous.
Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison, le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Si tu reviens par là, tu verras la rivière. Et j'ai refait en pierre le petit pont de bois, puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air autrefois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son